Alors, est-ce que vous savez que dans la Bible, les croyants, tels que nous sommes, les croyants, sont appelés des chrétiens une seule fois, mais que les croyants sont appelés des disciples 290 fois. Les croyants sont appelés chrétiens une seule fois dans la Bible, mais sont appelés disciples 290 fois. Alors, si vous vous intéressez à la foi chrétienne, cette notion du disciple devrait vous intéresser. Une vie de disciple, c'est ce que nous voulons vivre ensemble. Et pour mieux comprendre ce qu'est un disciple et comment faire des disciples, nous allons suivre le parcours de Pierre, le fameux Saint Pierre, le fameux apôtre Pierre. Nous allons suivre son parcours dans les semaines à venir pour comprendre ce qu'est une vie de disciple. Je me souviens quand j'étais plus jeune, j'entendais parler de disciples. Je pensais souvent à Socrate et ses disciples Aristote et Platon. Et avec des robes et des sandales, assis dans une salle de cours où tout le monde s'ennuie et bavarde toute la journée. Mais c'est pas tout à fait ça la vie de disciple. Et nous allons voir quand il y a Jésus et quand il y a Pierre dans la même pièce ou dans le même cadre, c'est personne s'ennuie. Alors je vous invite ce matin à chercher Luc chapitre 5 et nous allons voir un peu ce démarrage de la vie de disciple pour l'apôtre Pierre. Luc chapitre 5, versets 1 à 11. Nous lisons ensemble Luc chapitre 5. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, Pierre, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Alors si vous cherchez un personnage préféré de la Bible, après Jésus, Pierre n'est pas un mauvais choix. Il est attachant, il est authentique, il est entier, même lorsqu'il fait des boulettes. Et c'est ça qui nous rassure aussi. Alors ce jour-là, il va vivre quelque chose de déterminant avec Jésus dans sa vie de disciple. Ça peut aider de savoir que ce n'est pas la première fois que Pierre a rencontré Jésus. Pierre était déjà allé chez lui, d'après Jean chapitre 1, probablement, et a pris le goûter chez lui un après-midi. Pierre l'avait déjà entendu enseigner dans la synagogue, certainement. Et même Jésus était venu chez lui et avait guéri sa belle-mère. Mais c'est ici que tout va basculer pour Pierre et il va vraiment découvrir ce qu'est une vie de disciple. Il va découvrir, comme nous devons aussi, que Jésus est maître de tout et que ça vaut tout de le suivre. Alors nous allons regarder Pierre ce matin, mais tout en regardant Pierre, j'aimerais que vous gardiez une autre personne en tête. C'est celui à qui Luc écrit ses paroles. Il s'appelle Théophile. D'après Luc chapitre 1, verset 3, Luc a écrit ce récit de la vie de Jésus pour Théophile, cet excellent Théophile, pour l'aider lui aussi à devenir un disciple de Jésus-Christ. Donc vous voyez, devenir disciple de Jésus, ce n'est pas que pour Pierre, autour d'un lac, mais c'est aussi pour Théophile et c'est aussi pour nous tous. Alors ce matin, découvrons qu'est-ce qu'un disciple. Si on parle tant de disciples dans la Bible, beaucoup plus que chrétiens, qu'est-ce qu'un disciple de Jésus? Ce matin, nous allons voir qu'un disciple, il écoute Jésus. Ensuite, un disciple, il laisse Jésus diriger sa vie. Et enfin, un disciple aide d'autres à faire de même. un disciple, tout d'abord, écoute Jésus. Ça commence ainsi, l'écoute de la parole de Jésus, verset 1. Jésus se trouvait au bord du lac de Génésareth et la foule pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. À la base, un disciple, c'est un étudiant, c'est quelqu'un qui est enseigné, et c'est là l'image de même de Socrate et de d'Aristote, et à une part de vérité. Un disciple, c'est quelqu'un qui est enseigné par Jésus, qui écoute sa parole. Si on veut être disciple de Jésus, il faut écouter sa parole, il faut étudier sa parole. Alors nous pouvons l'écouter par la prédication, nous pouvons l'étudier par la lecture, mais c'est l'élément de base d'un disciple de Jésus, il reçoit ses enseignements. Et ce que Jésus a fait ce jour-là, verset 3, il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Jésus était en train de faire des disciples aussi là, à ce moment, en prêchant à la foule. Sa prédication devant les grandes foules faisait partie de son ministère de faire des disciples. Et nous croyons que ce que nous faisons en ce moment même, d'écouter la parole de Dieu, c'est très important dans la formation des disciples. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Vous voyez, en versets 2 et 3, il demande à Simon, Pierre, c'est la même personne, il demande à Pierre l'usage de sa barque pour en faire un pupitre flottant. C'est intéressant parce que la foule pourrait mieux le voir et mieux l'entendre si il est un peu séparé d'eux, parce que le détail, la foule presse autour de lui, pas évident de parler à tous. Donc, il sollicite Pierre et sa barque pour avoir une estrade, un pupitre flottant. Alors, ça s'est passé presque inaperçu, mais vous voyez ce que Jésus vient de faire. Il vient de s'inviter un peu plus dans la vie de Pierre. Maintenant, Pierre, par rapport au reste de la foule, tout le monde va pouvoir écouter la prédication de Jésus, mais Pierre a maintenant, on va dire, un cours personnalisé. Si Pierre est comme la plupart d'entre vous, ce n'est pas la place qu'il aurait lui-même choisie, c'est-à-dire être assis au premier rang. Mais maintenant, il est assis au premier rang d'une prédication de Jésus. Et a priori, n'ayant rien attrapé cette nuit, Pierre n'a rien d'autre à faire que d'écouter le message de Jésus et son enseignement cette matinée-là. Et on peut croire qu'au lieu d'écouter d'une seule oreille, maintenant, il écoute de deux oreilles, parce qu'il est là, juste à côté de lui, dans la barque. Vu les décisions qu'il va prendre par la suite, on peut penser que Pierre commence déjà à être interpellé par le message de Jésus. Oh oui, il avait écouté, comme bien d'autres, des choses à la synagogue, des rabbins parler. Mais là, même cette foule qui se presse autour montre que le monde est interpellé par le message nouveau de Jésus. Et Pierre certainement l'est. Donc on peut dire que Pierre n'a pas gaspillé sa matinée à prêter sa barque à Jésus. Il n'a pas perdu son temps à être là, assis, coincé, pour ainsi dire, dans cette barque pendant le message de Jésus. Et ma question pour vous tous, comment Jésus s'arrange en ce moment pour vous faire asseoir à ses pieds? Comment Jésus s'arrange pour vous rendre tout ouïe? Ah oui, vous avez l'habitude peut-être de venir dans une église, d'écouter chaque dimanche une prédication. Vous avez grandi dans une famille chrétienne, vous connaissez tout ça, mais à un moment, comme Pierre, Jésus va vouloir s'inviter vraiment dans votre vie et vous faire écouter d'une manière toute nouvelle sa parole. Et ensemble, en tant qu'église, nous voulons nous motiver ensemble à ça, cette écoute qui n'est pas juste la foule, mais qui est personnelle, qui est individualisée, que Jésus veut nous faire dire. Alors, comment on peut faire ça ensemble? Mais déjà, vous connaissez notre pasteur stagiaire Samuel Ramos. S'il vous a pas encore demandé, ça va pas tarder, est-ce que vous lisez 4 chapitres de la Bible par jour? Alors, s'il a pas encore demandé, vous êtes prévenu, vous pouvez préparer déjà votre réponse. En tout cas, on veut se motiver ensemble à la lecture. Ou bien nos amis, nos sœurs à la librairie, ils ont peut-être un bon livre à vous conseiller et vous pouvez lire pour découvrir vous-même les enseignements de Jésus. Ou bien vous pouvez, par texto, par un coup de téléphone avec un ami, un frère et sœur de l'église, dire Est-ce qu'on ne peut pas lire ensemble cet évangile ou cet épître? Voilà, du coup, le message de Jésus prend une dimension nouvelle parce que on écoute vraiment. C'est ça qu'il nous faut pour être un disciple de Jésus-Christ, de l'écouter comme, non seulement comme cette foule, mais comme Pierre qui est vraiment proche de lui. Mais c'est pas que d'écouter Jésus. Maintenant, un disciple, il laisse Jésus aussi diriger sa vie. Pierre a écouté le discours de Jésus ce matin-là. Certainement, Jésus a parlé des choses spirituelles. Peut-être ça ressemblait un peu au sermon sur la montagne, alors que maintenant il est dans la barque. Mais Jésus a enseigné souvent les mêmes idées, les mêmes choses. Il a certainement parlé du royaume de Dieu. Il a parlé de la bonne nouvelle. Il a parlé de la repentance. Pierre écoute tout ça et probablement interpellé. Mais maintenant, Jésus a une autre parole pour Pierre. Et ça, c'est pas vraiment une parole spirituelle. Regarde ce qu'il dit en verset 4. Là, c'est une parole personnelle pour Pierre. Lorsqu'il eut cessé de parler à la foule, Jésus dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets. » Jusqu'à là, Jésus est l'invité de Pierre dans sa barque. Mais c'est Pierre qui est maître de sa barque et aussi de ce lac et de ce métier de pêcheur. Oui, Jésus est certainement un expert dans l'Ancien Testament parce qu'il sait si bien en parler à la synagogue. Oui, Jésus est un expert dans la guérison et la délivrance, même l'exorcisme. Pierre a vu ça, mais Pierre n'est pas malade, n'est pas possédé. C'était sa belle-mère qui a vécu ça, pas lui. Mais voilà que ce Jésus, le charpentier, Jésus, l'enseignant spirituel, il se positionne en maître de la pêche. Il se positionne en maître des affaires personnelles de Pierre. Et il lui donne des conseils. Il lui donne un ordre. Et en plus, ces conseils ne riment à rien. Avance maintenant en plein midi, jeter les filets en plein jour. C'est pas le moment de faire la pêche. Et c'est ça la question. Pour nous tous aussi. Jésus est-il expert non seulement dans les domaines que je ne maîtrise pas, mais aussi dans les domaines que je maîtrise? Suis-je prêt à obéir Jésus non seulement le samedi matin à la synagogue, mais au travail, lorsqu'il s'agit des choses que moi je connais? Jésus peut-il diriger ma vie là où je pense savoir mieux que lui? Telle est la question qui va être déterminante pour que Pierre devienne un disciple de Jésus-Christ. Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Et on sent dans la réponse de Pierre, Jésus, tu te connais pas vraiment en pêche. Et c'est ça la question pour nous. En 2019, en France, est-ce que Jésus sait vraiment de quoi il parle dans notre vie quotidienne? Ou est-ce que c'est des choses spirituelles qui sont bien de les garder dans une église? C'est bien pour les étudiants de la Bible, c'est bien pour les pasteurs. Mais est-ce que Jésus a des instructions à me donner dans ma vie de tous les jours? Mais voilà ce qui est touchant, c'est que quelque part, il y a quelque chose en Pierre qui lui dit, bon, c'est plutôt à moi d'obéir à Jésus que à Jésus de m'obéir. Et c'est ça un disciple, et c'est beau ce qu'il dit, « Maître, nous avons travaillé toute la vie sans rien prendre, sans le doute, sans l'hésitation, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Ça, c'est un disciple. Sur ta parole, je jetterai le filet. Quelque part, c'est ce moment-là que sa vie a basculé. C'est sûr que dans un sens, Pierre va vivre beaucoup de moments dans sa vie où tout va basculer, je suis d'accord. Mais l'instant qu'il obéit Jésus dans ce domaine qui finalement qu'il lui pense maîtriser et qu'il peut dire, ok, sur ta parole, je jetterai le filet. Certainement, il avait déjà été suffisamment convaincu parce que la manière que Jésus a parlé, la manière que Jésus prêchait, la manière que Jésus enseignait pour dire, il y a suffisamment de pertinence, de vérité, de compassion, d'amour dans ce que j'entends de la bouche de Jésus que peut-être je peux aussi lui faire confiance dans ce domaine. Et ça, j'espère que vous l'avez vécu aussi. Si c'est pas encore le cas, écoutez encore Jésus et déterminez pour vous-même si sa parole n'est pas encore pertinente et vraie, et pleine de vérité, pleine de compassion, pleine d'amour. Et quand il nous donne un ordre, c'est certainement pour notre bien. Sur ta parole, je jetterai les filets. Et vous connaissez la suite. Deux barques remplies, les filets rompus. Mais regardez la réaction de Pierre. Verset 8. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Imaginons une barque pleine à craquer de poissons jusqu'au bord, en train de couler. Il tombe à ses genoux, devant ses amis, devant la foule, et il dit cela, « Éloigne-toi de moi. » Vous voyez Pierre agenouillé, presque dans un bain de poissons, en train de réaliser quelque chose de merveilleux, quelque chose de déterminant pour sa vie de disciple. Est-ce que c'est la réaction que vous attendiez? La plus belle pêche, cette pêche miraculeuse. On s'attendrait à une grande joie de la part des pêcheurs, pas une grande frayeur. Pourtant, ils sont effrayés. On s'attendrait à une grande joie. Oh là là, regardez tous ces poissons, c'est le jackpot. Vite, prenons un selfie avec Jésus où l'on voit bien les deux barques en train de couler. Ou en tout cas, Jésus, on t'embauche tout de suite. CDI, direct. Mais c'est pas sa réaction. Et sa réaction était la bonne. Et si vous êtes disciple de Jésus-Christ, vous comprenez ce qu'il a vécu ce moment-là. Ce moment-là, Pierre sait qu'il est en présence de quelque chose qui le dépasse. Il avait dit dans sa réponse en verset 5, quand Jésus a dit « Jette vos filets », il avait dit « Maître ». Ça veut dire un peu « chef, patron », comme on se dit « oui chef, je ferai ça ». En verset 5, il dit « Maître ». Mais en verset 8, c'est plus maître, c'est seigneur, kurios en grec. Pierre sait qu'il est en présence de quelque chose qui le dépasse, tellement autre face auquel lui, il est indigne. Le mot dans la Bible pour décrire cela, c'est la sainteté. Et Pierre, devant cette sainteté, devant cette seigneurie, tout le reste est secondaire. Les poissons, les collègues, la foule, les bateaux qui coulent, tout ça, il n'y pense pas, il pense à cet homme, Jésus, qui finalement, il se rend compte, c'est plus qu'un homme. Pour Pierre, le vrai mystère, le vrai miracle n'est pas la quantité de poissons, mais le fait qu'un homme comme lui puisse se trouver dans la présence d'un tel Seigneur. Et là, il fléchit le genou. Et ça, c'est un disciple. En grandissant, j'avais une bande dessinée que j'aimais bien, c'était l'histoire de Robin des Bois, avec les différentes légendes. Alors, effectivement, Robin des Bois, c'est plutôt légendaire. C'est bien différent que la vie de Jésus, que Luc raconte. Luc veut pas qu'on pense que c'est des légendes, c'est pour ça qu'il écrit ces choses, pour les attester, mais on peut aimer l'histoire de Robin des Bois. Et dans un des épisodes, que je me souviens, il y avait, c'était Richard, le roi Richard Cœur de Lion, qui était revenu, qui entendait parler de ce hors-la-loi, ce Robin des Bois. Alors, d'après une légende en tout cas, il décide de rendre visite à Robin des Bois pour voir ce qui se passe dans ce forêt, cette forêt. Donc, mais il le fait, il se déguise. Donc le roi, Richard Cœur de Lion, se déguise en moine pour visiter Robin des Bois. Donc il arrive dans la forêt et rencontre les hommes de Robin et ses hommes, qui veulent plutôt le dépouiller, parce que c'est un peu leur habitude de prendre l'argent des riches et de le donner aux pauvres. Et donc le roi est venu avec ses hommes, tous déguisés en moines, ils passent la journée ensemble, il y a un banquet, et bon, Robin montre comment ils vivent, et il y a des concours de tir à l'arc. Et à un moment, il décide de faire un concours de bâton entre Robin et ce moine, parce que Robin, dans sa tête, pense que moi, je vais facilement le renverser, je pourrais prendre sa bourse et tout ça. Mais le combat se finit autrement, pour cela, c'est chez le roi lui-même qui est fort en combat et qui, à un moment, donne le coup de grâce à Robin et qui le renverse. Et à ce moment, son habit, sa cape, s'enlève et tous les autres hommes voient. Ils voient le blason, ils voient que c'est le roi. Et tout le monde se met immédiatement à genoux, la tête découverte. Et Robin, lui-même, il est par terre. Mais il se retourne, il voit que tout le monde est à genoux. Et lui-même, il lève les yeux et il reconnaît le roi. Et là, lui-même, il se fléchit de genoux. Et après, il voue sa loyauté, sa fidélité à ce roi qu'il a toujours honoré. Mais voilà ce qui se passe pour Pierre aussi. Il pensait, il peut-être pas encore connaissait exactement qui était Jésus, un homme religieux, un rabbin, comme cet habit de moine. Mais par ce miracle, Jésus, en quelque sorte, a enlevé la cape, il a enlevé l'habit un instant pour montrer qu'il était bien plus qu'un homme. Il était le roi, il était le Seigneur de tout. Et là, tout le monde fléchit le genou, mais aussi dans un désir quand même de servir. Donc Pierre a découvert ce jour-là, il a fait ce pas déterminant de laisser Jésus diriger sa vie, de reconnaître en Jésus le Seigneur, le Maître, le Roi. Donc un disciple, il écoute Jésus, il est prêt à faire ce qu'il lui demande. Un disciple, il laisse Jésus diriger sa vie, même dans ses affaires du quotidien. Et enfin, un disciple, il aide d'autres à suivre Jésus. Voilà ce que Jésus va lui dire dans la suite. Au moment où Pierre, après qu'il est tombé aux genoux, Jésus lui dit, en verset 10, « Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Si on était à Toulouse, Jésus aurait su certainement utiliser une image avec des avions. Désormais, tu vas aider des gens à décoller dans leur foi. Mais c'est pas l'image qu'il a donnée. En tout cas, l'image inspirée, c'est celle de la pêche. Pêcheur d'hommes. Donc, on va étudier cette image-là. Mais c'est parlant pour nous tous, particulièrement parlant pour Pierre dans son métier de pêcheur. Mais nous pouvons aussi comprendre. C'est quoi un pêcheur d'hommes? Eh ben, c'est aider d'autres à suivre Jésus. C'est accompagner d'autres à ce qu'ils découvrent les mêmes choses. Aider d'autres à écouter Jésus. Écouter d'autres à laisser Jésus diriger leur vie pour devenir eux-mêmes disciples de Jésus-Christ. C'est ça la pêche d'homme. Alors prenons quelques instants pour creuser cette image d'être pêcheur d'homme. Déjà, vous avez compris que c'est une image à l'inverse. Normalement, les poissons passent de l'eau à la barque et puis ils passent de la barque dans votre assiette. C'est-à-dire, il passe de la vie à la mort. C'est pas très glorieux pour un poisson. Mais la pêche des personnes, qui sera la mission de Pierre et qui sera notre mission à nous tous, c'est l'inverse, c'est de passer de la mort à la vie. Et ça, c'est bien plus glorieux. C'est bien plus glorieux et c'est pour ça que eux, ils ont laissé la plus belle pêche qu'ils ont fait de toute leur vie. Ils l'ont laissé pour suivre Jésus-Christ. Parce que c'est bien plus glorieux de pêcher d'homme que de pêcher de poisson. Et puis rappelons que cette pêche n'est pas la pêche à la ligne en loisir individuel que l'on fait le samedi ou le dimanche. Les gens peuvent aimer la pêche à la ligne, à la canne à pêche. C'est on se détend, c'est agréable être là au bord du lac. Mais cette pêche-là que pratiquaient Pierre et ses collègues, c'était une autre pêche. Hein. C'était une activité quotidienne. C'était une activité constante. C'était une activité fatigante parfois. C'était 7 jours sur 7. Parfois la nuit. Parfois le jour aussi, visiblement, la nuit et le jour. Tel est l'appel de Jésus pour nos vies, si on préserve cette image. La pêche d'homme, c'est une activité constante, quotidienne, parfois fatigante. Et c'est peut-être de ça dont vous avez besoin de prendre conscience aujourd'hui et dans les semaines à venir. Jésus veut utiliser votre vie 7 jours sur 7 pour attraper d'autres. Et même si vous ne voyez pas de fruits immédiats, tout sert, toute votre vie sert à cette mission. C'est une activité constante. Et puis rappelons aussi que ce genre de pêche, c'est un travail d'équipe. Ils sont plusieurs à jeter le filet. Vous savez comment ça marche. C'est pas juste une personne, tout seul, qui part dans sa barque avec une canne à pêche. C'est vraiment, il faut être plusieurs. Il y a plusieurs barques, mais pour jeter le filet, pour ramener ce filet, et ils doivent faire appel à d'autres. Et donc, pêcher d'hommes, C'est aussi, c'est pas l'affaire d'une personne. C'est un projet collectif. C'est un projet d'église que nous voulons vivre. Plus tard, Pierre va recevoir vraiment un appel apostolique pour faire partie des 12. Mais c'est pas encore ce moment. Nous croyons que cet appel de pêcher des hommes, ça nous interpelle tous aussi. Et c'est un projet d'église. Et si, lorsque quelqu'un devient disciple de Jésus-Christ, comme peut-être c'est votre cas, j'espère, vous le savez, c'était jamais par le biais d'une seule personne. Il y a un parent, il y a un ami, une amie. Il y a un responsable d'église, mais aussi celui qui vous a donné le café, il y a celui qui a prêté son salon pour discuter avec vous, c'est quelqu'un qui... Il y a toutes ces personnes ensemble ont permis à ce que vous passez du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Vous voyez, c'est un travail d'équipe. Et cette année, notamment notre église, nous voulons mieux apprendre à vivre cette réalité ensemble. Comment pêcher en tant qu'Église? Comment faire des disciples ensemble? Alors la question, peut-être vous lisez ces versets, vous dites, ah, d'accord, à la fin ils ont tout laissé pour suivre Jésus. Dois-je quitter mon travail aujourd'hui même pour être un vrai disciple de Jésus-Christ? Pas forcément. Et c'est là où je vous rappelle Luc et Théophile. Vous avez oublié Théophile peut-être, mais... Il est toujours là parce qu'il lit ses paroles. Ses paroles lui sont destinées en premier lieu, mais après tout un monde grec auquel Luc écrit. Mais pensez à Luc et à Théophile. Luc lui-même était médecin, et comme nous avons vu la semaine dernière, il a gardé ce titre tout en étant impliqué dans la pêche d'hommes avec Paul et d'autres compagnons. Ou ce Théophile, c'est intéressant, Luc écrit à ce Théophile, mais il lui donne un titre, c'est « Excellent Théophile ». Et beaucoup pensent que Théophile était un personnage grec d'une certaine importance, d'un rang social, pour porter ce titre « Excellent ». C'était réservé parfois aux notables, aux magistrats. Et donc il dédie ce livre, il dit « Je t'écris ces choses, excellent Théophile, pour que tu saches la certitude des choses qui se sont passées dans la vie de Jésus-Christ ». Et beaucoup de commentateurs pensent que Théophile même a pu jouer ce rôle. Le mot c'est mécène. J'ai appris ce mot cette semaine. Mécène, c'est quelqu'un qui finance l'avancement des arts, les lettres des arts. Donc vous avez un projet, vous êtes artiste, vous êtes écrivain. Parfois vous avez besoin de soutien. Et donc il y a des personnes qui ont des finances, qui ont une réputation et peuvent financer ou appuyer le projet. Certains pensent que Théophile a joué ce rôle. En tout cas, ce excellent Théophile, il a une certaine richesse, il a un certain standing, mais il peut lui aussi être disciple de Jésus-Christ et avancer dans sa vie de Jésus-Christ et être utilisé pour faire avancer la parole de Dieu. Vous voyez, on peut aider d'autres à suivre Jésus en tout laissant, comme Pierre et Jacques et Jean ont fait ce jour-là. Ou bien on peut aider d'autres à suivre Jésus dans sa profession. On peut aider d'autres à suivre Jésus en étant riche ou ne pas l'étant. L'important, c'est d'aider d'autres à suivre Jésus. L'important, c'est de suivre Jésus et d'aider d'autres à suivre Jésus. Maintenant, notez en conclusion que l'ordre, surtout, que Jésus a donné à Pierre, c'est de ne pas craindre. Vous l'avez vu ça, verset 10. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. L'ordre de Jésus, ce n'est même pas premièrement d'aller pêcher des hommes. C'est plutôt une promesse qu'il donne à Pierre comme commandement. Et l'ordre, c'est ne crains pas. La promesse, tu seras désormais pêcheur d'hommes. Ne crains pas, Pierre. Pierre vient de dire, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Et Jésus dit à Pierre, ne crains pas, tu vas pêcher des hommes. Ne crains pas, je peux t'utiliser. Ne crains pas, je vais pas t'éloigner de moi, je vais te garder près de moi. Même alors que tu le mérites pas. Ne crains pas, j'ai trouvé une solution, tu vas voir bientôt. J'ai trouvé la solution pour faire cohabiter un homme pécheur comme toi et un Dieu saint comme moi ensemble. Suis-moi, tu verras. Pierre le sait pas encore. Mais pour que Pierre n'ait pas besoin de s'éloigner de Christ ce jour-là, ni pour l'éternité. C'est que Jésus le Maître, le Seigneur est le Maître, il a pris la place du pécheur à la croix pour pouvoir ne jamais nous éloigner de sa présence à tout jamais. Lui-même a été éloigné de la présence de Dieu. Lui-même, le saint qu'il était, a été traité de pécheur pour nous garder près de lui. Ne crains point, Pierre. Tu verras qu'il n'y a pas besoin de t'éloigner de moi. Je peux te garder près de moi. Même si, alors que je suis très saint et tu l'es pas, j'ai trouvé la solution. Alors ce matin, oui, faites des disciples, mais surtout ne craignez pas. Ne craignez pas. Si vous écoutez la parole de Jésus, si vous laissez Jésus diriger votre vie, vous serez une influence pour d'autres. C'est obligé, c'est la promesse de Jésus. Si vous écoutez sa parole, si vous le laissez diriger votre vie dans le quotidien, au travail, à la maison, vous allez impacter d'autres vies. Parce que le miracle que Jésus vient de faire, vous avez compris, ce miracle devient une parabole pour le ministère futur de ses disciples. Eux aussi vont avoir une pêche miraculeuse, non pas de poissons, mais d'hommes. Et c'est la réalité de ce qu'eux, ils ont vécu dans la suite de leur vie et de ce que nous vivons encore aujourd'hui. Jésus sait bien rattraper, faire venir les poissons par miracle. Il sait faire les venir dans sa barque. Alors ne craignez pas. Jésus va vous utiliser pour impacter d'autres vies. Je vais inviter les musiciens à revenir pour nous aider dans un temps de chant. Mais remarquez que ce jour-là, Pierre a fait 4 choses, allant du plus simple au plus grand. Pierre a fait 4 choses. D'abord, il a prêté sa barque. Petit engagement. Ensuite, il a jeté son filet. Moyen engagement. Ensuite, il a fléchi le genou. Ça, c'est un grand engagement. Et enfin, il a tout laissé pour le suivre. Ça, c'est un très grand engagement. Mais chaque engagement était la suite logique aux autres. Et ça a commencé par simplement prêter sa barque à Jésus. Et puis, sur ta parole, je jetterai le filet. Et ce matin, probablement, ce que Jésus vous demande est abordable. Vous vous dites, je peux pas tout laisser aujourd'hui et tout suivre. Mais c'est pas forcément ce que Jésus demande là. Il vous demande de lui prêter sa barque. Ou votre temps, ou votre matinée, ou votre, un don que vous avez. Et après, vous verrez, dans la manière qu'il parle, il saura vous gagner pour des engagements plus grands. Alors ce matin, prête-lui ta barque, ou bien lis un chapitre de la Bible par jour, ou bien fréquente une cellule, ou bien appelle un frère, une sœur, pour l'encourager, pour prier avec lui. Et ainsi, vous verrez que Jésus va vous conduire et vous diriger vers de plus grands engagements. Nous allons chanter ce chant. C'est une prière, on termine souvent dans la prière, mais aujourd'hui nous allons tous prier par ce chant suivant. À tes pieds, ô divin maître, je me place avec bonheur, en t'adorant, je veux être ton disciple, ô mon Seigneur. Donc on va déjà chanter cette prière. Je vous invite à vous lever pour chanter avec moi. Et puis on va enchaîner avec notre cantique, où nous allons entendre l'appel de Jésus à le suivre, et puis nous allons pouvoir répondre aussi que nous voulons le suivre.